Bonne fin de soirée. Bienvenue à l'Antichambre. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir en deuxième partie d'émission. Ce sera notre carré d'as avec Ray Lalonde, Vince Cochon et Philippe Quentin. Menu hockey, baseball, football et un petit peu de COVID aussi. Oh. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon trio de panélistes ce soir. Mario Tremblay, Guy Boucher, Vincent Lanfousse. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Enfin, le camp va commencer. Je suis le Canadien de Montréal. Après les tests physiques aujourd'hui, demain sur la glace. Donc, on met la table pour les manchettes à Albi Lejean. Vincent, pour commencer.
Ben moi, quand je m'entraînais l'été, j'appréhendais cette journée-là d'aujourd'hui. J'avais hâte que ça finisse.
Parce que finalement,
les tests VO2, tests de puissance, pendant l'entraînement l'été, tu veux passer cette journée-là avec panache, avec des bons résultats. Le fameux test de gras, il te pince partout pour savoir si tu es en forme. Puis c'est un peu, tu te compares aux autres. Tu sais, tout le monde arrive là, pas de chandail, puis la fierté, tu veux être prêt. Puis une fois que ça passe, parce que, dépendamment de ta position aussi, moi, je travaille beaucoup sur mon VO2, mon endurance. Il y en a d'autres, c'est plus la force, parce qu'ils sont là moins longtemps, plus ou des gars plus physiques. Mais tu essaies d'être au sommet de ta forme, puis c'est là que tu le sais si tu es vraiment en forme comparativement aux autres. Puis une fois que ça passe, ben là, tu te concentres sur le hockey.
Est-ce qu'une recrue peut attirer davantage de l'attention avec ça, juste pour commencer avec...
Moi, j'en ai vu bien gros, des tests physiques, finir premier, mais il y avait la misère à
jouer au hockey. C'est ça.
Oui, t'as bon dans quelque chose.
Le plus important, là, c'est ça de l'as, on va dire. On va dire les vraies affaires. Là.
Les vraies affaires. Guy,
oui.
Ta manchette.
Ben moi, trop peu de temps. Je pense que dans une saison normale, puis un été normal, tu aurais à peu près 3 mois. Ouais. Et sinon plus, si tu ne fais pas les séries, évidemment, le Canadien s'est rendu... en finale, mais tu regardes le temps, c'est presque, je pense, c'est moins que la moitié du temps habituel. Même si c'est pas une saison de 82 matchs qu'on a joué, c'est très peu de temps. Et ton ingrédient numéro un, c'est ton enthousiasme. Alors, oui, les jeunes, oui, les recrues vont tous avoir de l'enthousiasme, tout ça, mais ton staff, les vétérans, c'est pas beaucoup de temps pour se repartir. Non. Publiquement, tu vas dire que oui. Publiquement, tu vas dire que t'es fébrile, t'es content d'être là, mais à porte fermée, t'es conscient que t'aurais probablement bénéficié de plus de temps.
Et tu te rembarques dans un marathon de 82 matchs. Là.
C'est pas évident.
Condensé en plus.
En plus, avec les Jeux olympiques. Mario?
Bien, pour poursuivre un peu dans la même veine que Guy, là, moi, ma manchette, ça fait du monde à la messe. Moi, là, 70 joueurs au camp d'entraînement, je m'excuse. Comme joueur, j'aimais pas ça. Comme coach, j'ai pas aimé ça. Puis comme assistant coach, j'en avais pas ça non plus. Je trouve que ça fait trop de monde. Tu sais, on dit que le temps presse, là. 70 joueurs, puis on en parlait avec Guy tantôt. Ça, là, c'est des promesses faites des fois par des GM envers les agents, envers les éclaireurs qui veulent avoir leurs jeunes au camp d'entraînement. Une promesse faite à un agent, OK, ton gars, on va lui donner 3 matchs d'exhibition, des choses semblables. Mais pour l'amour du ciel, t'arrives au camp d'entraînement comme vétéran, Vincent, là, tu l'as vécu, Guy, comme coach aussi. Je pense pas que t'aimais ça bien non plus, 70 joueurs au camp d'entraînement.
Autre chose aussi, Mario, c'est que dans mon temps, le camp d'entraînement, c'était 1 mois et demi, on avait 11 matchs hors concours.
Ouais.
Avec les conventions collectives, là, c'est plus... C'est moins de journée, je pense que c'est 3 semaines.
C'est encore pire, Vincent, bon.
7 matchs hors concours, 7-8,
t'as pas... D'où ma première question pour amorcer l'émission de ce soir. Demain, Dominique Duchamp, il y a le groupe A, il y a le groupe B.
Groupe C, groupe D.
Non, groupe C, c'est le groupe C, c'est le troisième groupe. C'est la troisième roue du carrosse. Mais toi, ton groupe A, ton groupe B, là, tu commences à faire des expériences tout de suite. Tu commences à mettre des trios à l'entraînement tout de suite ou tu y vas pour créer une chimie?
Comme joueur, ce que j'ai vécu puis ce que j'aimais, c'est que tu essaies des choses avec tes vétérans ou le jeune que tu penses qu'il va faire l'équipe. Puis tu mets les autres qui peuvent te surprendre ensemble à la fin. Mais le groupe A, groupe B, c'est pas les meilleurs dans le A.
C'est
divisé assez égal pour qu'ils puissent jouer un contre l'autre. Puis que tu as des matchs hors concours assez rapidement.
Là.
C'est pas des pratiques de power play qu'on fait dans le camp. Là.
Idéalement, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait on parle d'un jeune espoir. On prenait 2 vétérans avec un jeune espoir pour voir comment est-ce que... comme Vincent a dit, on voulait pas mettre 3 jeunes en même temps. Si t'as l'équipe A, l'équipe B, t'as des vétérans d'un bord, je pense qu'il faut que tu essaies de bien balancer là, tes alignements. Sinon, Guy, t'as pas de plaisir.
Ben, regarde, moi, c'est pas compliqué. Là, dans n'importe quelle ligue, t'as toujours trop de joueurs dans tes camps, puis t'as jamais assez de temps pour ta préparation. Alors, plus t'as de joueurs... C'est comme un professeur. Il n'y a aucun professeur qui va dire « j'aime mieux avoir 35 élèves plutôt que 15 ». Pourquoi? Parce que c'est ta proportion d'intervention. Si tu as 35 élèves, tu vas t'étaler un peu partout, puis tu ne feras jamais vraiment une bonne job parce que tu n'as pas assez de temps avec les joueurs, le professeur, c'est un élève, mais un coach, c'est la même chose. Fait que là, tu passes pas assez de temps avec ton vétéran, avec ton leader, parce que tu as trop de monde à t'occuper. Alors, c'est sûr que, comme tu as dit, c'est écourté maintenant. C'est plus un mois et demi.
C'est 6 matchs d'exhibition que j'ai joué cette année, 6.
Bon, moi, mon expérience à moi, c'est toujours la même. C'est que tu es obligé de faire jouer un paquet de joueurs, comme tu as dit, pour certaines raisons. Fait que tu n'as jamais ton équipe sur la glace. Mm-hmm. Là, tu arrives à la fin. Le dernier match d'exhibition, ça, c'est bon rien parce que les joueurs jouent juste pour pas se faire mal. Fait que là, tu as peut-être ton équipe ou presque. Donc, tu as vraiment un match là, vraiment pour te préparer. C'est l'avant-dernier match. L'avant-dernier match, puis tu as encore des gars que c'est pas certain. Fait que t'as jamais vraiment tes lignes, t'as jamais tes paires de défenseurs, t'as jamais
t'es l'avantage numérique,
ton désavantage numérique.
Exact.
Fait que donc, tu crées pas ta chimie. Le plus de succès que moi j'ai vu en début de saison, c'est toujours parce que t'es courte, ta quantité de joueurs le plus rapidement possible, puis que tout de suite, tu crées de la chimie avec tes vétérans, comme tu as dit. Moi, j'aime ça. C'est des joueurs qui parlent, des anciens joueurs. Leur perspective est toujours la même. Ils viennent toujours à mon bureau. Quand est-ce est-ce qu'ils s'en vont pour qu'on puisse commencer pour vrai? Fait que ça, c'est ce que je ne suis pas supposé dire, mais je le dis pareil.
C'est la réalité, Guy. Ben oui, c'est réalité. Ce qu'on veut entendre. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose?
Pour ceux qui se posent la question, pourquoi que 70 joueurs d'abord? C'est parce que comme organisation, tu veux voir c'est quoi ton talent. Tu as une chance de voir tous tes jeunes ensemble, comment tes choix de 3e, 4e, 5e ronde, peut-être les gars s'en retournent junior, comment ils compétitionnent pendant une semaine. Mais la clé, c'est rapidement, mineurs, envoie ça dans le junior, puis garde 30 joueurs, là, puis après ça, tu tombes.
Ça, là, Vincent, là, pour ça, il y a des scouts, il y a des éclaireurs. Quand ils sont juniors, ils vont aller les voir. Puis Daniel Méridien, c'est à côté, c'est à Laval. On va tous les voir là.
Il y a même Trois-Rivières
en plus. Moi, comme coach, là, je suis d'accord avec Guy, je vais voir mon club le plus rapidement possible. Une semaine, mettons, en tout cas, peu importe.
Mais
faut que ça bouge.
Comme Vincent vient de le dire, t'as différentes personnes à contenter là-dedans. Là.
Oui.
C'est que ton gérant, lui, il veut voir certains jeunes. Les recruteurs, ils veulent voir les gars repêchés. Les autres qui s'occupent du développement des joueurs, eux autres veulent voir les joueurs de la ligne américaine, les autres qu'on a rencontrés toute l'année. Fait que lui, le gérant, il est pris tout le temps entre ce que le coach veut puis les autres pour contenter un peu tout le monde.
L'autre chose.
Il y a une danse quand même à faire.
L'autre chose, Guy, c'est qu'avant d'envoyer 4 joueurs à Laval, ils vont faire quoi à 4 comme camp d'entraînement? Faut que tu en envoies quasiment 25 en même temps, les mineurs, pour que là, leur camp commence 2 semaines plus tard.
Raison. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont faire des groupes à mener, ils vont les garder probablement.
En tout cas pour...
Ils vont les garder à moitié pareil, mais ils vont faire un groupe de Laval avec Jean-François Hull. C'est lui qui va gérer ça, puis les autres gros, ils vont aller...
J'aimerais ça, moi, un camp de 40 joueurs, c'est sûr. Moi, si ça commence à 40, c'est idéal.
T'as des deux équipes, puis t'as beaucoup de répétitions. Un des problèmes, c'est quand t'as beaucoup de joueurs, t'as pas beaucoup de répétitions pour tes vétérans. Fait que t'y vas moins souvent, puis...
Soyons honnêtes, le club est quasiment en fait, là.
Il y a pas grand place.
Pas grand place, là, les boys, là.
Il y a pas beaucoup de place.
Contre pas de peur, là.
Vous savez, on est une émission qui est optimiste envers le Canadien de Montréal. La saison n'est pas encore commencée, donc tout est beau. Tout est bien. Donc, je vous demande, qu'est-ce qui vous rend optimiste?
Moi, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt au 5 à 7. Moi, j'ai toujours dit, puis je ne sais pas si les gars vont être d'accord, qu'on gagne des matchs puis des séries avec la défensive. Je comprends que Weber ne sera pas là, mais l'arrivée de David Savard, moi, là, j'aime la défensive du Canadien. J'ai coaché défenseur pendant 10 ans. Puis demain matin, je vais avoir l'arrêt du banc du Canadien pour coacher les défenseurs. Je suis à l'aise. Je vais bien dormir, puis je suis capable de bien manager mes défenseurs. Pourquoi? Parce qu'on a des gros bonhommes, des gars qui sont capables de bouger. Puis je pense que l'arrivée de David Savard aussi, ça va sécuriser aussi du côté de la profondeur. Mm-hmm. Fait que les 6-7 défenseurs qu'on a, j'ai pas peur de les utiliser, mais pas pantoute.
Mettons que Romanov fait une minute et demie à chaque présence, tu vas te donner un petit peu de cheveux gris, mais ça, pour ça, ça va être...
Ouais, mais il va s'améliorer, le kid, là.
C'est vrai,
René,
c'est
ça, il va prendre son métier, là. Il va arrêter de courir comme une tête pas de poule. Il va se caser, là.
Guy, toi, qu'est-ce qui te rend optimiste?
Je pense qu'à l'avant, il y en a qui disaient peut-être que ça allait être une offensive un peu plus périmètre, tout ça, mais au moins, tu as de la vitesse.
Oui,
je pense que tu as des joueurs de vitesse. C'est des gars comme Hoffman, ça a beaucoup de vitesse. Évidemment, Drouin qui va revenir, c'est beaucoup de vitesse. Caulfield qui a beaucoup de vitesse. Evans a beaucoup de vitesse. Alors ça, c'est positif. Parce que l'enquête d'aujourd'hui se passe avec la vitesse.
Exact.
Et avec les joueurs qu'on a là, je pense que pour l'avantage numérique, tu as vraiment du stock pour faire 2 avantages numériques de qualité. Tu as des gars qui sont capables de lancer, tu as des gars qui sont capables de passer, tout ça. Alors, pour moi, la vitesse et l'avantage numérique, pourraient être des points positifs.
Puis aussi, Guy, là, juste ajouter ceci, là, on a perdu des vétérans, c'est vrai, mais ce que Bergevin a fait comme travail, il a amené des vétérans aussi.
Oui.
Pas comme si ça amène des recrues, des gars de première année, deuxième année, c'est des vétérans de la nationale. Dvorak, Hoffman, comme tu viens de mentionner, David Savard et compagnie. Monsieur Perrault, pas j'oublier, Perrault, Cédric Paquette, exact. C'est des guerriers, ces gars-là. Donc, moi, je pense qu'on a amené du caractère également, de la profondeur, ces troisième, quatrième trios, sans aucun doute.
Toi, Vincent, qu'est-ce qui te rend optimiste?
Ben, moi, j'y vois avec la jeunesse. Ouais. Je pense que Suzuki va devenir encore meilleur qu'il l'a été l'année passée. Caulfield, on a vu ce qu'il a fait pendant les séries éliminatoires. Moi, je pense que c'est une valeur sûre. Et Dvorak, c'est un jeune vétéran, il a seulement 24 ans, 25 ans. Puis Romanov, moi, je pense qu'il va avoir une bonne saison. Fait que je suis optimiste avec le noyau de jeunes qu'on a chez le Canadien.
Bon, en contrepartie, il y a peut-être, je dis bien peut-être, des choses qui vous inquiètent chez le Canadien. Mario, toi, as-tu une inquiétude?
Bien, l'inquiétude, moi, j'en ai parlé à quelques reprises cette semaine. Moi, c'est drôle, personnellement, j'ai confiance en Ryan Poehling. Si j'étais à l'entraîneur demain matin, je m'assoirais avec de mon bureau parce que je veux voir qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut me donner. Je sais ce que Jake Evans peut me donner. Je sais, défensivement, il est bon, un peu d'offensif. Mais Poehling, l'année passée à Laval, moi, ça m'a encouragé un peu de voir son développement. Tu sais, avant qu'il soit blessé à l'épaule à Laval, Joël a réussi à peser sur le bon bouton. Fait que s'il veut une place cette année au camp d'entraînement, je comprends qu'il y a un contrat à deux volets.
Oui.
C'est peut-être ça qui peut jouer contre lui. Mais s'il démontre hors de tout doute qu'il y a une place pour lui comme troisième centre, je le vois troisième centre.
Mais la ligne de centre, est-ce qu'elle t'inquiète?
Bien, comme elle est là, oui, un peu.
Parce qu'il y a encore un peu d'incertitude. Ben, pourquoi troisième, quatrième?
Il va être là s'il est produit, Mario.
C'est sûr. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Vincent. Fait que ça va être à lui de démontrer qu'il faut que je sois là.
Guy, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète chez le Canadien?
Bien, c'est sûr que la perte de leadership. C'est clair, moi, tout repose sur le leadership. Mm-hmm. Moi, je suis convaincu l'année dernière, c'était pas Weber, puis c'était pas, voyons, à l'avant...
Gallagher?
Non, voyons.
Il est rendu
à Tampa.
Perry.
Je peux pas croire, je peux pas me rappeler de ça. Je vieillis, là.
Pas grave, ça y est.
Sans ces deux gars-là, je vois pas comment les Canadiens ont fait les séries l'année dernière.
Ouais.
Alors donc, ça va revenir à d'autres individus, mais pour moi, pour l'avoir vécu, des situations un peu semblables, première année ou l'année dernière, tu vas au-delà des attentes. L'année d'après, ben on a les mêmes attentes, mais tu n'as pas la même équipe.
Mm.
Alors là, c'est sûr qu'on espère que certains individus vont remplacer d'autres,
ça va bien aller.
Mais là, c'est sûr que c'est une division beaucoup plus difficile, avec des nouveaux joueurs, avec les attentes de l'année dernière, puis les attentes, ça peut devenir très étouffant. Alors, moi, j'espère pour le Canadien que ça ne le devient pas, mais c'est sûr que ça peut être un obstacle. Ça, c'est n'importe qui.
Mm.
Ça arrive souvent qu'il y a des équipes qui se rendent en finale, puis d'après, on
les
verra.
Les paramètres ne sont pas les mêmes depuis deux saisons. Le Canadien se fait des séries il y a deux ans à cause de la COVID. L'an dernier, on est dans la section canadienne.
C'est ça.
Là, cette année, on revient à la traditionnelle section.
Mais il faut faire attention aux attentes, parce que les attentes, c'est à peu près 80-85% de la confiance des individus, donc des équipes. Alors, je pense qu'il faut gérer ça. C'est tout à recommencer à partir de zéro, des contextes différents, avec des joueurs différents. Il faut faire attention de faire la comparaison avec l'année dernière, parce que quand tu fais cette comparaison-là, c'est ce qui t'étouffe. Mm. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes saisons. Alors, faut recommencer à zéro, rebâtir quelque chose. Et puis quand tu rebâtis, ça prend du temps.
À moins d'avoir une équipe comme Tampa où année après année, tu as le même noyau, puis là, tu peux dire, OK, année
mais
après
tu
année.
Veux le noyau de Tampa?
C'est ça.
C'est pas le même noyau, là.
Ils n'ont pas de pépins, eux.
Non.
C'est comme l'ancien noyau de Détroit, là.
Oui, c'est ça.
11 Hall of Famer dedans, là.
C'est ça. Mais c'est pour ça que les attentes, c'est différent d'une équipe à l'autre. Vincent, toi, y a-t-il quelque chose que
tu mon inquiétude, c'est. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Shea Weber, pas juste pour du côté leadership, mais aussi ce qu'il amène sur la patinoire. Il a été critiqué dans le passé, il n'était pas à 100%, mais c'est un gars qui se donne, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui produit. Est-ce que les autres défenseurs vont être capables de prendre, de monter la chaise, si tu veux, l'échiquier? Là.
Ouais.
Est-ce que Petrie va être confortable comme défenseur numéro un? Il l'a démontré l'année passée. J'ai confiance au top 4. J'ai hâte de voir Weidman, Romanov, s'ils vont être capables de suivre. Mais c'est plus de minutes pour tout le monde. Ma crainte devient une opportunité pour les défenseurs. Puis l'autre crainte que j'ai, c'est pas pour critiquer personne, mais j'ai hâte de voir comment Ducharme va dealer avec Jonathan Drouin, parce que moi, je suis contre l'idée de tout lui donner pour essayer de le repartir. C'était un petit peu ça que je trouvais dans le passé. C'était comme un projet pour Ducharme de faire partir Drouin. Mais si on veut trop lui donner les meilleurs éléments, le jeu de puissance comme on a fait dans le passé, puis tout lui donner pour qu'il parte de la bonne façon, peut-être que tu vas... Faut vraiment que ça fonctionne, parce que c'est tu peux pas être trop patient.
Non, des joueurs.
Il faut que tu y ailles progressivement, je pense, dans le cas de Jonathan, qui revient tranquillement, puis si tu lui mets tout de suite la pression avec peut-être...
Mais c'est pas la production. Moi, là, je pense que j'ai écouté Ducharme, là, puis il l'a expliqué, là, il veut vraiment qu'il joue de la bonne façon, qu'il travaille, qu'il soit bon défensivement. Plus les petits détails et moins se concentrer sur la production offensive, puis ça, il peut le faire sur un troisième trio pour commencer, puis gagner, ces gars-là ont gagné son temps de glace.
Rapidement, tu parlais de la perte de Shea Weber, mais l'arrivée de David Savard, on sait qu'il avait quand même une propension à aller du côté offensif au début de sa carrière, dans le junior, dans la Ligue américaine. Et quand il est arrivé à Tampa, pas à Tampa, mais avec Tortorella à Columbus, on l'a changé, on lui a donné un peu plus de mission défensive. Est-ce qu'il peut retrouver cette touche?
Peut-être.
Je parle pas là, de 50-60 points, mais une petite touche.
Pas autant que Weber.
Non, mais d'amener une touche offensive.
Encore là, il faut faire attention aux ententes. Et Savard ne pourra pas remplacer Weber.
Absolument.
C'est ce que Vincent vient d'expliquer. La part de Weber, c'était des points. C'était l'effet dissuasif sur la glace. Que Savard a un peu aussi.
C'est
le même style de joueur sans l'offensive. Tu ne peux pas te transformer. Je veux dire, à Tampa, il n'était pas devenu offensif.
Non. Cinquième, pourtant, sixième.
Il était sixième et c'était une équipe extrêmement offensive. Absolument. Alors, s'il y avait eu de l'offensive à gagner, elle aurait été là. Alors, moi, je pense que ce n'est pas pour diminuer Savard. C'est pour justement gérer nos attentes envers Savard pour qu'on puisse l'apprécier.
Vincent parlait tantôt, il faut que les autres augmentent leur temps de glace. Mm-hmm. David Savard, quand tu vois Columbus, il joue autour de 20 minutes par match.
Absolument.
Fait que s'il tombe à 17-18 à Montréal, ça va faire le travail. Là.
Guy, tu as dirigé Mike Hoffman et Chris Weidman à Ottawa, puis Mike Hoffman à Drummondville. Ce sont deux joueurs, particulièrement Hoffman, qui vont piquer la curiosité. Il y a des attentes, on revient aux attentes. Mike Hoffman, qui est capable de marquer des buts. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe, ces deux joueurs-là? Weidman, qui va peut-être se battre pour 5, 6, 7e défenseur avec le Canadien, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter?
Bien, écoute, Hoffman, il a un lancer foudroyant. Autant son lancer du poignet que son lancer frappé. C'est clair, c'est un gars qui peut marquer 30 buts. Il le fait régulièrement. C'est un gars très rapide. C'est un gars aussi qui est très talentueux. Et puis même, je pense qu'après Ovechkin, c'est peut-être le meilleur de la Ligue pour scorer des buts de loin. Ah. C'est très dur de scorer de loin. C'est la plupart des marqueurs...
Mais tu ne pas dans l'enclave, lui.
Oui.
Il est en périphérie, lui.
En périphérie. C'est la périphérie junior, c'est pareil. Mm-hmm. La science, c'est pareil. Donc ça ne changera pas. Mais ça, c'est un atout. Évidemment, il y a des lacunes. C'est pour ça qu'il s'est promené d'une équipe à l'autre. Un gars de 30 buts qui se promène d'une équipe à l'autre. Évidemment, c'est parce qu'il y a certaines lacunes. On ne rentrera pas là-dedans. Mais Weidman, il est en Russie, c'est pas pour rien, là. Weidman, il a prouvé qu'il est capable à 5 contre 5 de jouer dans la Ligue nationale sur une base régulière parce qu'il est comme pris un peu entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Mm. Il peut jouer sur un deuxième avantage numérique, il a un super bon lancer et tout ça, mais il faut qu'il prouve qu'il est capable, sur une base régulière, à 5 contre 5, autant offensivement que défensivement, de faire sa place dans la Ligue nationale.
Ça risque d'être une des belles batailles, en fait, l'une des rares qu'on va voir... au camp d'entraînement.
Ça va être un beau défi pour lui. Là. Comme il dit, tu as de la difficulté à jouer dans la Ligue nationale, tu t'en vas dans le KHL. Le KHL, les boys, là, c'est pas la Ligue nationale. Là. Puis je pense que l'une des faiblesses dans le KHL, c'est pas les joueurs d'avant, c'est les défenseurs. Mm-hmm. Alors, les éclaireurs qui l'ont vu en Russie, puis même Bob Hartley a dit qu'il avait connu une bonne saison. Alors, on verra bien comment est-ce qu'il va se débrouiller ici, mais on va mettre un petit bémol
là-dessus. C'est un petit gabarit aussi.
Oui, pas gros, c'est un pied 10.
C'est ça.
On va voir ça, ça commence demain. D'ailleurs, on fait une courte pause au retour, messieurs, des anecdotes sur vos différentes expériences en camp d'entraînement. Et un peu plus tard, notre carré d'as avec Ray Lalonde, Vince Cochon et Philippe Quentin. À tout de suite.